Terroir Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 29 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Alberson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, 5 morts dans une attaque contre un camp de la garde nationale à Ménaka.
Au Burkina Faso, accord entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation pour sauver l'année scolaire.
Ouverture hier à Addis Abeba en Éthiopie du 30e sommet de l'Union africaine.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de ce matin contre l'académie militaire d'Afghanistan.
Et ne manquez pas notre page sport avec le Chan au Maroc ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, des assaillants lourdement armés ont réussi à s'infiltrer hier dans la ville de Ménaka pour lancer une attaque meurtrière contre un camp de la garde nationale, faisant 5 morts et 3 blessés. Les détails avec notre correspondant dans la région, Boubacar Touré.
Le camp de la garde nationale basé à Ménaka a été la cible d'une attaque d'hommes lourdement armés venus à bord de 4x4. Les assaillants dont l'identité n'a pas été encore révélée. Parmi les personnes interrogées à Ménaka, d'aucuns affirment que les véhicules des assaillants étaient au nombre de 7 et d'autres d'ajouter que des véhicules qui étaient déjà en ville se seraient ajoutés à ceux venus le matin pour faire cette attaque contre les gardes. Le bilan est lourd, 5 gardes maliens ont été tués et 3 blessés. Un officier malien qui a préféré garder l'anonymat nous a confié que parmi les assaillants, il y a eu 3 morts. Des avions ont été aperçus dans le ciel de Ménaka un peu après l'attaque. Les populations sont restées toute la journée du dimanche terrées chez elles. Le commerce était resté fermé, les rues désertes. Le camp de garde de Ménaka est encore sous le contrôle de l'armée malienne. Cette attaque contre la garde nationale basée à Ménaka n'a pas été encore revendiquée. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le gouvernement burkinabé et les syndicats de l'éducation sont parvenus ce week-end à un accord pour sauver l'année scolaire, paralysée depuis plusieurs mois par une grève des enseignants soutenue par les élèves. Les détails avec Fatouma Alimassi.
Depuis près de 4 mois, les enseignants observaient un mouvement marqué par la suspension des évaluations, du traitement des dossiers, des examens et un sit-in hebdomadaire. Les syndicats ont obtenu que le budget de l'État alloué à l'éducation soit rehaussé de façon progressive dans les années à venir. Le statut des agents de l'éducation et de l'enseignement supérieur sera revalorisé, une des principales revendications des grévistes. Leurs conditions de vie et de travail connaîtront une évolution significative, selon Wendy Amzongo, porte-parole de la coordination des syndicats de l'éducation nationale. L'État s'est engagé aussi à améliorer les bourses d'études, à fournir davantage de places en internat pour les élèves et à ouvrir les cantines scolaires 9 mois par an au lieu de 3. Pour le Premier ministre Paul Kabatiba, le gouvernement et le peuple burkinabé seront soulagés de voir le protocole d'accord mettant fin au long conflit social. Dès ce lundi, dit-il, les élèves vont retrouver le chemin de l'école dans la sérénité.
En Égypte, 5 personnalités ont appelé hier au boycott de la présidentielle prévue en mars, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Au pouvoir depuis 2014, le chef de l'État sortant est actuellement le seul candidat officiellement en lice pour l'élection, dont le premier tour est prévu entre les 26 et 28 mars. Depuis quelques semaines, plusieurs aspirants à la présidence se sont vus écartés par les autorités et d'autres se sont dit découragés, dénonçant des pressions sur leurs partisans.
Ouverture hier du 30e sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Pour le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le moment est venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix au Soudan du Sud, pays en grève depuis décembre 2013. Oriane Itingishaka.
Également présent à Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré que les Nations Unies soutiendraient n'importe quelle initiative africaine pour une plus robuste réponse. Évoquant une réunion à huis clos samedi soir du Conseil de paix et de sécurité à l'Union africaine, M. Guterres a déclaré que ce serait l'IGAD elle-même de prendre l'initiative. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. Une énième cessez-le-feu entré en vigueur le 24 décembre dernier a été violé à de nombreuses reprises. Le président sud-soudanais, Salva Kiir, était présent hier à Addis Abeba, mais c'est par l'intermédiaire de son ministre, notamment en charge du suivi de l'accord de paix, que le gouvernement a réagi. Les sanctions ne peuvent pas être imposées sans raison, a déclaré M. Eliane Lomoro, soutenant que les événements rapportés au sujet du pays ne correspondaient pas à la réalité sur le terrain. À l'ONU, les États-Unis ont appelé la semaine dernière à l'imposition d'un embargo international sur les armes au Soudan du Sud, pays né en 2011 sous les auspices de Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de ce matin contre le complexe de l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul. Cette attaque a fait au moins 5 morts et 10 blessés parmi les soldats dans un contexte de grande tension qui voit les insurgés multiplier les opérations. Selon l'AFP, qui cite le porte-parole du ministère afghan de la Défense, l'attaque est terminée, mais aucune confirmation indépendante ne pouvait être immédiatement obtenue. Cette attaque est la troisième en 10 jours à peine dans la capitale afghane, après celle visant un grand hôtel le 20 janvier et l'explosion d'une ambulance piégée samedi qui ont fait au total des centaines de morts et de blessés.
L'armée turque a pris hier le mont Barsaya, une colline stratégique du nord-ouest de la Syrie, dans le cadre de sa campagne contre la milice kurde des unités de protection du peuple alliées des États-Unis. Cette opération tend les rapports entre Ankara et Washington. Les détails avec Mohamedou Humfa.
La Turquie mène depuis le 20 janvier une offensive dans la région d'Afrine contre cette milice connue comme les YPG, un groupe considéré comme terroriste par Ankara, mais qui est l'allié de la coalition combattant le groupe État islamique. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est dit résolu hier à élargir l'offensive vers l'Est, notamment à la ville de Minbej, où Washington a déployé des militaires. La frontière syrienne sera nettoyée, a-t-il dit. Sur le terrain, les bombardements de l'artillerie et des avions turcs ont été plus importants que lors des jours précédents. L'opposition de Washington et d'Ankara au sujet des YPG empoisonne depuis plus d'un an leur relation, la Turquie reprochant aux États-Unis de soutenir ce groupe lié au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui mène une guérilla meurtrière sur le sol turc. Ankara a ignoré les appels américains à la retenue. L'Union européenne a exprimé sa préoccupation face à l'intervention turque qui complique davantage la situation en Syrie, où la guerre a fait plus de 340 000 morts depuis 2011.
En Russie, l'opposant Alexei Navalny, soutenu par ses partisans, répondant par milliers à son appel pour dénoncer la supercherie de l'élection présidentielle de mars, a été libéré après avoir été brièvement détenu par la police hier à Moscou. L'opposant a été inculpé pour violation des procédures concernant l'organisation d'une manifestation, a indiqué la police moscovite dans un communiqué. Vladimir Poutine, président ou premier ministre depuis fin 1999, devrait être réélu pour un 4e mandat à la présidence le 18 mars. Des milliers de manifestants, 3500 d'après la police, ont bravé le froid pour se réunir dans près de 120 villes de province.
Le chanteur américain Bruno Mars a reçu hier le prix du disque de l'année pour le titre 24K Magic, lors de la cérémonie des Grammy Awards, ultime consécration pour le showman de 32 ans au style flamboyant, héritier de la funk des années 80, et c'est la première fois que l'artiste né à Hawaï décroche cette récompense aux Grammys.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Dilidico.
En Côte d'Ivoire, l'État annonce le lancement de DG Immobile, une plateforme qui permettra aux contribuables de recevoir des informations relatives aux impôts et d'effectuer des transactions sur leur téléphone. Moussa Sanogo, secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, a souligné, à quelques semaines du lancement de la plateforme, la nécessité de renforcer l'automatisation des opérations, d'améliorer les téléprocédures et de consolider la maîtrise des dépenses publiques. Au Maroc, le secteur de la plasturgie devrait générer 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 475 000 emplois en 2023, selon l'agence Ecofin. Les autorités marocaines et les opérateurs du secteur de la plasturgie ont présenté les grandes lignes permettant d'atteindre ces projections. Au Maroc, 650 entreprises font partie de l'industrie de la plasturgie qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle 2014-2020 du pays. Les prix des métaux de base ont grimpé après que la Maison Blanche a donné le ton du marché en provoquant l'affaiblissement du dollar. Les prix de l'aluminium, du plomb, de l'étain, du nickel et du zinc ont augmenté sur la semaine écoulée, notamment à cause des annonces d'investissement faites par Donald Trump. Son plan d'investissement pourrait potentiellement doper la demande de métaux de base sur les années à venir en raison du développement des infrastructures promis par le président.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Congo-Brazzaville échoue aux portes des demi-finales du CHAN.
Et oui, les Diables Rouges locaux qui ont été éliminés hier par la Libye en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations à Agadir. Les Congolais qui ont cédé au tir au but 5-3 après avoir résisté aux Libyens dans le temps additionnel et les prolongations, un but partout. Retour sur ce match à suspense avec Amine Birouk sur place pour VOA Afrique.
L'expérience de la Libye a eu raison de l'enthousiasme des Diables Rouges du Congo ce dimanche à Agadir. Pendant 5-20 minutes, les hommes de Barthélémy Ngatsono ont cru entrevoir les demi-finales du CHAN. Tout d'abord, ils ont réagi après l'ouverture du score de Taher pour les tenants du titre en 2014 au quart d'heure de jeu, avec l'égalisation de Massiké à la 37e minute. Puis, ils ont pris l'initiative après le repos. Mais le gardien libyen Nashnouch a sorti de belles parades. Les prolongations ne donnaient rien, ce qui obligeait les deux équipes à se départager lors de la fatidique séance des tirs au but. À cet exercice, les chevaliers de la Méditerranée étaient plus adroits. Leurs 5 tentatives étaient réussies, alors que le gardien et capitaine congolais Moko ratait la sienne. La Libye retrouvera le Maroc en demi-finale ce mercredi, alors que le Congo rentre au pays la tête haute. Depuis Agadir au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Merci Amine. Et côté congolais, c'est la fin d'une belle aventure pour une équipe qu'on n'attendait pas à pareil niveau après avoir éliminé le Cameroun et le Burkina Faso en phase de poule. La satisfaction du sélectionneur congolais à Barthélémy Ngatsono.
Il y a une qui a attaqué à outrance, l'autre était regroupé en bloc pour partir en contre-attaque. Voilà, et le jeu, je crois qu'il était quand même équilibré parce qu'en fin de compte, on a fait 1-1 jusqu'aux prolongations. Et ce n'est qu'à l'issue du tir au but que la chance a joué. Nous avons manqué et puis ils ont marqué les 5 pénalties. Voilà.
C'était Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur du Congo-Brazzaville.
Au prochain tour, la Libye affrontera mercredi le Maroc.
Le pays organisateur favori, après avoir éliminé la Namibie 2-0 samedi à Casablanca, les Lions de l'Atlas, qui semblent difficilement arrêtables devant leur public du stade Mohamed V. Écoutons Jamel Selami, le sélectionneur du Maroc.
Comme les joueurs, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas « je » ou « moi » et par « nous ». Nous aussi, on dit « nos joueurs » parce que ce sont les joueurs du Maroc. On est satisfait jusqu'à présent et on espère, Inch'Allah, qu'il soit performant jusqu'à la fin parce qu'on mérite d'être champion. On est bien, on est chez nous, on est supporté par nos supporters. On a de bons joueurs, on a le coach Hervé qui est là, qui supporte les joueurs, qui les motive. Je pense que toutes ces circonstances sont là pour que ces joueurs-là écrivent l'histoire du Maroc.
Jamel Selami, le sélectionneur du Maroc.
Soudan-Nigeria, ce sera l'affiche de l'autre demi-finale.
Oui, l'équipe du Soudan s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Zambie 1-0 samedi à Marrakech. Le but décisif a été inscrit par Saif al-Din Bakrit à la 32e minute. Et hier, les Nigérians qui se sont qualifiés à Tanger en battant les Angolais 2-1.
Athlétisme, un record pour un Burkinabé.
Et c'est Fabrice Zango qui a battu le record d'Afrique du triple saut en salle en bondissant à 17,23 m, c'était samedi. Le Burkinabé a ainsi effacé la marque de 17 mètres établie, tenez-vous bien, en 1982 par le Nigérian Ayaji Akikbaku. Le record d'Afrique en plein air, lui, tient toujours. Il date de 2007, 17,37 m.
NBA, championnat de basketball nord-américain.
Les Rockets de Houston ont dominé sans problème les Suns de Phoenix, 113-102. Les Bucks de Milwaukee ont fait tomber les Bulls de Chicago, 110-96. Et malgré 21 points d'avance au cœur du deuxième quart-temps et un Anthony Davis en pleine forme, la Nouvelle-Orléans s'est inclinée à domicile face aux Clippers, 103-112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, plus que quelques jours avant la fin de la campagne électorale pour les élections communales du 4 février, 342 circonscriptions électorales sont en jeu pour un rendez-vous très attendu et à l'issue duquel les conseillers municipaux remplaceront les délégations spéciales à la tête des communes installées depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Le principal parti d'opposition, Abessia, quartier situé à Mototo, l'une des cinq communes de la capitale. Ici, le FDG est venu présenter sa tête de liste, Kalimoudi Ansani.
Nos collectivités à la base ne sont pas bien analysées. Il faut absolument imprimer à ces collectivités une nouvelle gouvernance. Si vous êtes en Guinée ou si vous êtes à Conakry, vous n'avez peut-être pas cru certaines rues de la Mototo. Vous êtes rendu compte combien de fois la ville est sale, combien de fois les routes sont dégradées, combien de fois les écoles sont pétries, combien de fois l'accès au quartier est difficile, combien de fois les jeunes souffrent et combien de fois les femmes souffrent.
Même s'il ne connaît pas le programme de son candidat, ce militant reste confiant.
C'est l'homme qu'il faut. Et la jeunesse de Matoto souffre. Nous avons beaucoup de problèmes à Matoto. Nous avons des problèmes de circulation. Et il n'y a pas d'école. Il y a tant de problèmes que la commune de Matoto a vraiment.
Tombolia Plateau, à l'autre bout de la commune, les candidats de l'alliance RPG Arc-en-Ciel communiquent sur les acquis de la gouvernance du président Alpha Condé. Et là,
c'est à partir de ces élections communales qu'on saura effectivement que notre parti est fortement implanté dans le pays. Parce que c'est les élections à la base. Et nous sommes sûrs qu'à cette allure, nous le savons déjà, que c'est le parti majoritaire qui est le RPG Arc-en-Ciel en Guinée. Et que ce parti est fortement implanté un peu partout dans le pays. Ce qui nous rassure, c'est surtout le programme explicite du professeur, de notre professeur, le président Alpha Condé.
Les militants du parti au pouvoir semblent sereins et pensent que la Guinée a un autre argument pour défendre sa démocratie.
Cette élection représente pour moi un réel engouement dans la mesure où les décisions doivent venir à la base. Et que ce choix à la base est un démocratique. Ça fait le socle de la démocratie.
1300 listes de partis ou coalitions de partis politiques et listes indépendantes sont en campagne depuis quelques jours. Et pour ce rendez-vous, il sera un peu plus de 5 millions de Guinéens à se rendre aux urnes pour choisir parmi les 30 000 candidats inscrits. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
À Difa, au Niger, dans les sites des populations réfugiées et déplacées du fait des attaques de Boko Haram, se trouve un nombre important de personnes handicapées. Notre correspondant Abdelrazak Idrissa est allé à la rencontre de l'une d'entre elles.
Elle s'appelle Soueba. Elle vivait avec ses parents dans le village de Madari au Nigeria jusqu'à ce jour de l'année 2015 où une attaque des éléments de la secte islamiste Boko Haram visa le dit village. Il fallait donc s'enfuir pour trouver refuge. Ce fut une grande peine pour ses parents.
C'est moi qui la portais sur le dos tout le long de notre fuite. Je me souviens comme si c'était hier. Ils étaient venus une nuit. Nous étions obligés de sortir pour aller en brousse. Au petit matin, nous avons commencé à marcher pour aller au bord de la rivière Komadougou. C'est à la tombée de la nuit que nous avons pu avoir une pirogue qui devait nous conduire à Baga, le village le plus proche. Là-bas, nous avons passé quelques jours avant de venir ici à Difa.
Tout cela n'a cependant pas affecté le moral de la jeune fille dans le quartier et la famille qui les ont accueillis. Soueba s'est très vite intégrée. Au premier mois de leur arrivée, elle partait même à l'école prendre cours avec les autres enfants du quartier.
J'ai arrêté d'aller à l'école parce qu'elle n'est plus près de chez moi, mais aussi parce que mon vélo est régulièrement en panne. Sinon, je veux bien y aller.
Avec cette situation de quasi-oisiveté, Soueba veut s'occuper. Elle entend, si jamais elle a les moyens, mener des activités génératrices de revenus.
Afin de parvenir à satisfaire mes besoins en habits, notamment, je voudrais avoir des fonds pour faire par exemple de la couture ou encore l'élevage de petits ruminants.
Dans ce projet qu'elle nourrit, la jeune fille a le soutien de son papa.
Je la vois très mal aller mendier. C'est pourquoi s'il y a des bonnes volontés, qu'elle lui vienne en aide afin de pouvoir faire ce qu'elle vient de dire. Ce sera un grand soulagement pour nous.
Comme d'autres réfugiés qui habitent le quartier Charizamna de Difa, la famille de Soueba dit n'avoir bénéficié des appuis des structures humanitaires que sur quelques semaines après leur arrivée. Depuis, plus rien. La mère de Soueba est alors obligée parfois d'aller cueillir en brousse des fruits qu'elle revendra pour acheter de quoi manger pour elle, son mari et leur enfant.
Notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, sur le terrain à Difa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la loi de finances 2018 provoque un tollé chez les opérateurs économiques qui vont devoir payer plus de taxes. C'est la conséquence de la baisse des cours du cacao dont le pays est le premier exportateur mondial. Précision de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
La fronde est générale dans les milieux d'affaires. Les opérateurs économiques, petits comme grands, dénoncent les nouvelles mesures fiscales adoptées dans la loi des finances 2018. La pression fiscale, disent-ils, est forte, très forte même. Pour le patronat, à travers ces mesures, le gouvernement entend uniquement collecter plus de recettes sans se soucier de leur impact sur la vie des entreprises. Parfait Kouassi, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire.
Il y a un certain nombre de dispositions qui ne favorisent pas le développement du secteur privé et des entreprises en général. Un certain nombre de droits d'assises, ce sont les taxes à l'importation qui étaient augmentées dans certaines proportions, pouvaient conduire à une augmentation des prix à la consommation. Il faut que nous parvenions à un modus qui permet que tout le monde se sente bien, que l'État puisse garantir ses recettes pour assurer son rôle de régulation et de faire face à toutes les charges de base d'un État et aussi au secteur privé et se sentir bien pour se développer et continuer d'investir.
Hervé Kouassi est opérateur économique. Il ne cache pas ses inquiétudes.
Difficile pour nous parce qu'avec de nouvelles taxes et on sait que l'agrément des affaires pour les PME qui commencent n'est toujours pas évident. Et lorsqu'on se retrouve avec cette tasse-là, c'était un peu difficile vraiment pour nos activités. Parce qu'on a peur pour l'avenir. On a peur parce que plus de tasse, lorsqu'on commence, on veut grandir. On veut prendre plus de personnes pour grandir. Mais en prenant plus de personnes, on se trouve avec plus de tasse. Et donc, on est réticents.
Au sein des commerçants, la nouvelle loi des finances soulève également une véritable levée de bouclier. Soumaoro Farikou, président de la Fédération des commerçants des Côte d'Ivoire.
Nous sommes inquiets, comme on le dit communément, trop d'impôts tuent l'impôt. Mais avec cette loi des finances, les gens resteront dans l'informel. Ça va susciter des fermetures d'entreprises et ça va engendrer aussi une fraude parce que tu peux faire le commerce sans être déclaré. Nous, on fait le commerce pour faire les bénéfices. Si ça monte, nous aussi, on répercute sur nos prix de vente. Donc, c'est le consommateur final qui va supporter.
Face au tollé général provoqué par cette loi des finances, le président Ouattara a demandé à son gouvernement de revoir sa copie et d'entamer des discussions avec les opérateurs économiques. Confronté à une baisse des cours du café et du cacao sur le marché international, l'État ivoirien est à la recherche de nouvelles recettes en vue de renflouer ses caisses. Et cela pourrait bien passer par une hausse de la fiscalité. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
De l'or découvert à une centaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans la localité d'Ezeka, la recherche de ce métal précieux est devenue l'activité principale dans cette ville du centre. Selon notre correspondant Emmanuel Jules Ntap, l'exploitation de cet or se fait de façon artisanale par des orpailleurs venus d'horizons divers.
La piste est difficile d'accès. Seuls les motos ou les piétons téméraires l'empruntent, bravant le chemin sous d'épaisses couches de poussière. Ici, la recherche de l'or mobilise tout le monde, peu importe l'âge ou le sexe des chercheurs d'or.
Nous sommes ici depuis 3 semaines seulement. C'est un peu pas ça. Non, on se bat seulement.
La vie n'est pas facile, donc on cherche d'argent.
Le marécage est creusé à longueur de journée depuis plus d'un mois. Les orpailleurs de circonstance ne ressortent pas de la bredouille au bout d'intenses heures de travail.
Je travaille de 6h à 19h. Nous travaillons, on nous dit le gramme à 15 000, après 2 jours on change le prix du gramme.
On travaille de 7h à 18h. Nous sommes en groupe, nous sommes à 5.
À une centaine de mètres, les acheteurs d'or très méfiants attendent le précieux métal. Idriss, l'un des acheteurs d'or sur le site de Ndjok, accepte de parler à VOA Afrique.
Oui, ça marche, ça marche.
Comment vous trouvez la qualité de l'or qu'il y a ici?
Oui, bon, si c'est que ça finit souvent, bon, dès qu'on trouve, bon, si c'est que nous on n'avait pas le matériel de travail, on travaille l'or artisanal, quoi. Oui, l'or qui est en haut là.
En août 2017, la délégation départementale des mines d'Ezeka a été informée par un orpailleur individuel de la découverte de l'or non loin de son domicile. Les autorités de la ville, puis de Yaoundé, ont vite pris des mesures conservatoires pour éviter l'anarchie dans l'exploitation de l'or.
L'or pur, c'est 24 carats, mais à Ezeka, nous sommes à 23,6. Dans sa voisine, l'OPU, le préfet d'Union Ekéré, a suspendu l'activité pour permettre à tout le monde de se constituer en coopérative. Et le ministre est venu confirmer ça lors de sa visite. Il y a 7 coopératives actuellement.
5 mois après, les dividendes de la découverte de l'or sont évidents dans la ville de Ezeka sur le niveau de vie de la population.
Tout ce qui est commercial, ça passe rapidement. Et dans ça, tout le monde trouve son compte.
Comme de ce côté, il creuse de ce côté sur la route de Ezeka-Makak. On prend le client à 500 et de fois on bâche 3 clients. Nous recevons augmenté de 4 000 à 12 000 à 13 000 maintenant.
Après avoir été la ville du tram consécutif au déraillement qui s'était produit ici à la gare éponyme, Ezeka est devenue la ville de l'or. Les pouvoirs publics peinent pour le moment à contenir tous ces hommes et femmes à la recherche de la précieuse matière. Depuis Ezeka, Emmanuel Juntap, à 121 km de Yaoundé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albusson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sinoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.